Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambour, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et nous avons un invité spécial, Junior Mambour, qui est mon propre frère, un serviteur de Dieu que j'aime et que je respecte. Et à partir de ces émissions, nous allons partager sur un thème, l'évangélisation. Bonjour Junior.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Avant d'aller plus loin, nous allons prier, remettre le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur afin qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous instruise sur l'évangélisation. Prions. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci pour ta parole, merci pour la présence de ton serviteur. Merci pour ces hommes et ces femmes qui vont nous écouter en ce moment. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons comprendre les instructions que le Seigneur nous a données sur l'ordre missionnaire. Parle-nous, Seigneur. Dirige-nous au travers de ton serviteur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Avant que je te donne la parole, Junior, je voudrais que nous lisions un tout petit verset sur l'évangélisation dans Marc. Non, je préfère Matthieu. Prenons Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vais lire. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Alors, Junior, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur l'évangélisation?
Merci beaucoup. Le mot évangélisation, c'est d'abord un mot qu'il faut comprendre. L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Alors là, on est obligé de comprendre encore c'est quoi évangéliser. Évangéliser, c'est parler de l'évangile, de la bonne nouvelle.
Tout à fait.
La bonne nouvelle, elle est clairement définie, très bien définie par Paul, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15.
1 Corinthiens 15.
À partir du premier verset jusqu'au huitième. Peut-être qu'on ne lira pas tout, mais ça nous donnera une idée.
Non, mais on peut lire.
On y va.
1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 8.
Jusqu'au verset 8.
Voilà. Je lis.
Vas-y.
Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Il parle de l'évangile.
Tout à fait.
Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, il parle toujours de l'évangile, avant tout, comme je l'avais reçu, maintenant il parle de l'évangile, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je peux m'arrêter déjà d'abord là. Je vois déjà les phrases clés, les éléments importants que Paul présente par rapport à ça. Christ est mort pour nos péchés. Il est venu, il a porté nos péchés. C'est une bonne nouvelle. En fait, Paul voulait, au fait, partant de ce que nous venons de lire, montrer que par l'évangile, nous sommes sauvés. Par l'évangile, Christ a porté nos péchés et nous sommes justes devant lui, tel que lorsque nous nous tenons devant Dieu, il nous considère justes.
Au travers de Jésus.
Oui. Voilà. Ce n'est pas parce que nous aurions accompli des actes de justice, non. Mais c'est simplement parce que nous avons cru en lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que Christ était mort et les apôtres étaient enfermés dans une maison. Mais quand ils ont appris que Christ était ressuscité, c'était une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous devons apporter aux autres. Parce que cette bonne nouvelle fait que nous avons le privilège de nous approcher de Dieu avec assurance. Chose que Adam et Ève ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ont été bannis du jardin. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur cette bonne nouvelle.
Ceci me fait penser, sans te couper la parole, dans Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8.
Okay.
Paul dit ceci. C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Figure-toi, Junior, qu'il y a de ces communautés qui prétendent que l'on peut être sauvé, que l'on doit être sauvé par les œuvres. Que non, il y a. C'est pas gratuit. En fait, c'est comme s'ils voulaient dire que, en dehors de ce que Jésus a fait, il y avait encore quelque chose qu'il fallait ajouter pour être sauvé. C'est pour cela que moi aussi, je pense que l'évangélisation est quelque chose de, j'allais dire, de prioritaire.
Okay.
On doit annoncer l'évangile à tout homme et toute femme de notre génération. Je t'en prie, continue.
Ok, c'est comme tu viens de le dire, l'évangélisation, c'est la priorité des priorités.
Tout à fait.
Très important. Lisons encore un texte. Là, c'est le Seigneur qui le dit dans Marc 16, verset 15.
Marc 16.
Marc 16, verset 15. Ok. Je lis.
Oui.
Ça, c'est le Seigneur avant qu'il ne...
Je peux lire, je suis déjà arrivé avant toi.
Okay,
Marc 16, verset 15.
On y va.
Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Très important ce texte.
Toute la création.
Voilà. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Utilisez toutes les méthodes, utilisez tous les moyens disponibles pour toucher votre génération en leur annonçant la bonne nouvelle. En d'autres termes, en leur annonçant l'évangile.
Voilà. Très important ce texte-là. Et Jésus-Christ a été lui-même un exemple parlant de l'évangélisation parce que lui-même, il a évangélisé. Il est venu pour sauver au travers de l'évangile. Il y a beaucoup de textes qui le disent.
Nous sommes là pour étudier tous ces textes.
Justement, allons dans le livre de Marc, toujours.
Oui.
Marc, chapitre 1er, versets 38 à 39.
Marc 1,
voilà.
1er, 38
à 39. Et tu arrives avant, tu peux lire.
Il leur répondit,
okay.
Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons.
Très important aussi. Afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il est sorti pour annoncer la bonne nouvelle et sauver les gens.
Et n'oublions pas que Jésus est notre modèle en toutes choses.
Voilà.
Pas de distinction chez qui il faut aller annoncer l'évangile. On peut revenir un peu dans Marc 16. Matthieu 28. Matthieu 28. Je m'excuse. Allons plutôt dans Actes.
Okay.
Parce que je voulais. Il y a un petit texte qui m'a toujours. Inspiré. C'est celui de où on distingue Jérusalem, les Samaritains. Il dit dans Actes 1. Verset 8.
Oui.
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi Jésus précise Judée, la Samarie, alors que la Samarie était dans la Judée? En fait, Jésus veut nous faire comprendre que lorsqu'on doit évangéliser, on ne doit pas faire de distinction, parce que la Samarie était dans la Judée. Mais pour les Juifs de l'époque de Jésus, les Samaritains étaient comme des sous-hommes, carrément comme des animaux. On ne devait pas les considérer. Alors Jésus dit, allez dans la Judée, mais comme je sais que vous avez une conception juive des choses, allez aussi voir les Samaritains, ces sous-hommes-là. C'est un peu comme si on était des racistes. Il dit non. Allez voir aussi ces races que vous ne supportez pas, ces races que vous n'aimez pas, ces races que vous considérez comme étant des animaux. Allez leur annoncer à eux aussi la bonne nouvelle.
Amen.
Il faut annoncer l'évangile à toute la création.
Amen.
Sans distinction. Je t'en prie, continue.
Et c'était avec amour que Christ l'a fait. Je suis toujours dans Actes. Actes 10, 38. Regardez ce qui est écrit.
Acte 10, 38.
Je lis.
Oui.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Amen.
Ils sont nombreux sous l'empire du diable, dans l'obscurité.
Une autre
des
version
ténèbres.
Dit sous l'emprise du diable.
Ok. Et le Seigneur Jésus-Christ, par l'évangélisation, il allait les délivrer de cette emprise des ténèbres. C'est ça un exemple merveilleux que le Seigneur nous a laissé et que tout chrétien doit en principe réaliser.
Alors il y a une partie que j'aimerais qu'on en parle.
Oui.
Tu dis tout chrétien. Est-ce que tu es en train de sous-entendre que l'évangélisation n'est pas seulement une affaire d'homme de Dieu?
Exactement. L'évangélisation n'est pas simplement une affaire des hommes de Dieu, mais de tout chrétien.
Les chantres,
bien
les
sûr,
intercesseurs,
bien sûr, nous,
la dame qui nettoie les bancs,
justement,
les hommes et les femmes qui nettoient l'église,
okay.
Le protocole.
Oui.
Même si on s'occupe que des finances de l'église, nous sommes appelés à l'évangélisation.
Effectivement. Le Seigneur nous a appelés à évangéliser et tous, ce n'est pas une affaire d'une certaine catégorie comme tu viens de le dire.
Est-ce que tu sais qu'il y a des communautés qui prétendent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher?
Par exemple, c'est une erreur de le faire parce que l'évangélisation, le Seigneur le fait par les hommes, hommes ou femmes, sans exception. Et même, parlant de cela, on peut voir comment prêcher, hein? Quand on voit le fait, cet aspect-là, on voit que nous prêchons non seulement en parole, mais aussi en acte.
Tout à fait, tout à fait.
Je prends un exemple par rapport de la femme. Je prends par exemple le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3.
Pierre.
Oui. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2.
1 à 2.
Je lis.
Je t'en prie.
Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. J'insiste là-dessus, sans parole par la conduite de leur femme.
Très grande évangélisation. C'est comme si Pierre nous disait, écoutez, on ne gagne pas seulement au travers des prédications,
oui.
Mais on peut gagner des hommes et des femmes à Christ au travers de notre comportement.
Exactement.
C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde.
Très important.
Le monde est dans les ténèbres et il nous voit et comment nous sommes en train de réagir.
Okay.
Donc, nos comportements, nos actes, notre manière de parler, de réfléchir, notre manière de nous habiller est une forme d'évangélisation.
Ouais.
C'est comme pour dire qu'en fait, il y a plusieurs méthodes pour évangéliser. Ce n'est pas seulement déposer des bibles, des traités bibliques, copier des CD, les distribuer à gauche et à droite aussi, mais le comportement aussi peut permettre de gagner une personne à Christ. Je voudrais t'inviter à lire dans le psaume 28.
Oui.
Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, Seigneur, 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 aide-nous à comprendre. Psaume 68, verset 12. Psaume 68, verset 12. Il est dit ceci, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il est parlé de femmes. Les messagères de bonnes nouvelles. Au fait, on pourrait dire aussi, les messagères de l'évangile sont une grande armée.
Amen.
Donc, Jésus-Christ ne se préoccupe pas de savoir si ce sont les hommes ou les femmes qui doivent apporter l'évangile, mais son souci majeur est de gagner le monde. Et lorsque nous lisons les actes, les œuvres missionnaires, l'ordre missionnaire que Jésus donne, par exemple, que tu as lu dans Marc, pour revenir, pour ne pas aller très loin, dans Marc 16, verset 15, allez par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lorsque Jésus parle ici, il parle à tous ses disciples. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants.
Okay.
Il ne distingue pas, il dit, vous les hommes, allez en évangélisation. Vous les femmes, restez à la cuisine. Vous les enfants, contentez-vous simplement de rester à l'école maternelle ou je ne sais pas quoi. En fait, il donne l'ordre à tout le monde.
À tout le monde, c'est ça.
Et chacun, selon l'appel du Seigneur, va utiliser sa méthode pour gagner le monde. Tu connais le pasteur Yonggi Cho.
Oui.
Figure-toi que cet homme de Dieu, à l'âge de 17 ans, quand il a donné sa vie à Christ, il a été gagné à Christ par une jeune fille de 12 ans, la fille d'un missionnaire, qui le suppliait, qui priait pour lui. Et fatigué, voyant que cette dame était très très triste, cette jeune fille était très triste, il a décidé de donner sa vie à Christ. Mmh. Il connaît jusqu'à aujourd'hui, mmh. dans tous les livres qu'il a écrits, il mmh. dit qu'il connaît pas, il ne se souvient pas du nom de cette dame, mmh. cette fille de 12 ans. Mmh. Aujourd'hui, le pasteur Yonggi Cho a une église de plus de 2 millions de membres, mmh. 50 000 pasteurs, mmh. 100 000 cellules mmh. et des missionnaires partout dans le monde. Gagné à Christ par une toute petite fille mm-hmm. de 12 ans.
Mm-hmm. Que Dieu a utilisé.
Que Dieu a utilisé.
Voilà.
Il est nullement question d'être un spécialiste en théologie mm-hmm. pour parler de Jésus-Christ.
Oui.
Jésus a dit, vous serez mes témoins.
Okay.
Simplement des témoins. Mm-hmm. C'est ça la meilleure forme d'évangélisation.
Mm-hmm. Et là, je vais toujours rester là par rapport au fait qu'on doit prêcher par les actes.
Tout à fait. Hein?
Cela implique... Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que nous ayons une attitude digne pour amener les païens à se convertir. Je lis par exemple cette recommandation de Pierre. On est en 1 Pierre chapitre 2.
1 Pierre 2.
Verset 12.
1 Pierre 2, verset 12.
Je lis. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Mm-hmm. Très important. C'est-à-dire, au milieu des païens, on doit avoir une attitude digne, une attitude qui peut influencer ceux qui nous voient à suivre le Seigneur. Mm-hmm. Certes, c'est vrai qu'en parlant du Seigneur, on peut, toujours dans le souci que l'autre se convertisse, remarquez qu'on parle de Dieu, mais ça prend du temps et tout. Mais avec le temps, ce que nous sémons produit toujours.
Tout à fait.
C'est un problème de patience.
Ceci me fait penser au livre de René Abonté que j'ai lu sur l'évangélisation par le feu. Mmh. Il pose la question, lorsqu'on veut casser un mur avec un marteau, mmh. quel est le coup qui fait effondrer le mur? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier? Alors, la réponse en général, il disait, c'est le dernier. Il disait non. C'est chaque coup qui a été donné à ce mur.
Voilà.
Donc, peut-être que moi, je vais semer aujourd'hui. Toi, demain, tu vas arroser. Mm-hmm. Et peut-être que toi et moi, nous ne verrons pas les fruits. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important est que demain, mm-hmm. ce que toi et moi, nous ayons fait dans la vie de quelqu'un, porte du fruit.
Amen. C'est ça. Et Dieu le fait en son temps. Mm-hmm. C'est lui qui le fait. Mm-hmm. Nous faisons notre part, mais lui aussi, il a sa part. Je suis toujours là dans cette manière d'évangéliser par les actes.
Par les actes.
C'est très important. Là, je m'adresse plus à nous, chrétiens, à tous les chrétiens et surtout même aux hommes de Dieu, que notre attitude négative peut même être un danger pour la conversion des autres. Mm-hmm. C'est très important. Et je vois par exemple cette remarque que Paul a fait à Pierre, voyant son attitude vis-à-vis de la parole, c'est dans Galates chapitre 2.
Oui, Galates.
Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 14. Mais pour avoir une idée, on peut commencer au verset 11 à 14. Mais c'est le verset 14 qui est important. Je lis.
Je t'en prie. Galates 2.
Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. Parce qu'il était répréhensible. Mmh. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Un exemple concret. Qui Barnabas qui suit parce qu'il a vu Pierre faire, voilà. Le verset 14 qui m'intéresse le plus aussi. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Très important.
Pourquoi forces-tu les autres à devenir chrétiens?
Voilà.
Alors que toi-même, tu ne te comportes pas mm-hmm. en chrétien.
Voilà.
Pourquoi tu veux que les autres deviennent des chrétiens, alors que tes actes, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de réfléchir ne reflète pas Christ.
Okay.
Je vais te dire un truc qui m'a, bon, on va pas dire choqué, mais quelque chose que j'ai commencé à, sur lequel j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi l'évangile est sans impact, sans puissance aujourd'hui? C'est parce que nous les chrétiens, nous ne vivons plus à l'image de Christ.
C'est ça.
Nous courons après les dons. C'est pas une mauvaise chose. Mais en nous, on ne voit pas le fruit du Saint-Esprit. Nous voulons que les autres, les musulmans, nous voulons que les non-chrétiens deviennent des chrétiens, alors que nous-mêmes, nous ne fions plus totalement et pleinement en Christ. On a besoin d'argent. On ne compte plus sur Jésus, mais on commence à voler.
Voilà.
On commence à dire... on pousse les autres à devenir chrétiens alors que nous-mêmes, nous continuons à vivre dans la pudicité, alors que nous savons que c'est interdit. En fait, comme tu as dit, cette façon de marcher freine le salut dans la vie des autres. Parce qu'en fait, nous sommes la lumière du monde.
Amen.
Et on nous observe, que l'on se trompe ou pas. Les gens sont en train de nous regarder et ils se disent, si c'est ça le christianisme, je préfère rester encore un bon païen. J'ai aimé ça. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, si toi qui es chrétien, on va changer simplement, si toi qui es chrétien, mais tu continues à vivre comme des païens, pourquoi tu demandes aux autres de devenir chrétien, de changer de vie, alors que toi tu adoptes ton style de vie passé?
Très important ce que tu viens de dire. Nous sommes observés partout. Même quand l'on était pauvre pour quelques-uns, lorsqu'on accède à un poste élevé, nous devons garder notre nature, notre identité chrétienne. C'est très important. Je peux me référer à toutes ces personnes qui ont été élevées dans la Bible. Prenons le cas de Daniel, enfant de Dieu, élevé.
Troisième personnalité de l'Empire de Babylone.
Voilà. Mais il est resté attaché à Dieu.
Il priait chaque jour.
Voilà.
Il méditait la parole
voilà.
de Dieu. Et même lorsqu'on a donné un ordre disant que tel jour, à telle heure, enfin tel jour, personne ne devra adresser des prières à son Dieu si ce n'est que à l'empereur.
Voilà.
Ça ne lui a pas fait peur. Il
Amen.
A continué à prier.
Amen.
Au point même que en fait, c'était une histoire montée de toutes pièces pour l'écarter du pouvoir.
Voilà.
Il n'a pas eu peur.
Voilà.
Alors, est-ce que nous osions faire la même chose?
Voilà.
Dire non au péché. J'aime ce que Paul dit. Paul dit quelque part, vous n'avez pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang.
Amen.
Nous n'avons pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang.
C'est très important de dire cela. Je lis cette exhortation de Paul toujours. Romains chapitre 2.
Romains 2.
Versets 17 à 24.
17 à 24.
Je lis. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être conducteur, le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Verset 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes.
Tu voles.
Voilà. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Le verset 24, très important. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Amen.
Comme cela est écrit.
Voilà.
Junior, que Dieu te bénisse.
Amen.
En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de marcher correctement, de marcher dans la droiture, de marcher dans la crainte de Dieu.
Amen.
Car c'est à cause de nous, à cause de nos fautes, de notre manque de discipline, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens.
Voilà.
mon frère, ma soeur, vous qui avez écouté cette émission aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous juger, nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais nous sommes là pour vous réveiller. Quel style d'évangélisation vous apportez au milieu des inconvertis, au milieu des païens? Vous dites, ne volez pas, mais on vous voit dans toutes sortes de magouilles. Vous dites que l'adultère est interdit, mais on vous retrouve dans toutes sortes de fornications. Vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, mais on vous retrouve idole de l'Internet, des statues, je ne sais pas, des idoles bizarres. Mais on voit dans votre vie aussi, vous prétendez qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans votre vie, mais on voit que vous êtes un fan, vous êtes un amoureux de autre chose que la personne de Jésus-Christ. En fait, vous comportez en transgresseur. Nous avons une bonne nouvelle. Dieu veut que vous vous réveilliez aujourd'hui.
Amen.
Et si ce message vous a touché, si ces quelques paroles vous ont touché et que vous voulez dire, Seigneur, je veux évangéliser moi aussi par mon comportement, c'est très simple. Il vous suffit simplement de baisser la tête dans la prière et de demander pardon. Répétez ces simples mots après moi afin d'obtenir le pardon de Dieu. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. Je te demande pardon. Pardon pour ma légèreté. Pardon parce que je n'ai pas été un témoin fidèle de Jésus-Christ dans ce monde des ténèbres. J'implore ta grâce. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie pour me purifier, pour me laver, pour me justifier de toute forme de souillure. Je dis non à Satan et je dis oui à Jésus-Christ. Je prends l'engagement aujourd'hui d'être un témoin en toute chose, un témoin en toute chose de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois et je confesse que maintenant, j'ai reçu le pardon de Dieu et que je prends un nouveau départ au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu, Dieu vous a exaucé, Dieu vous a purifié. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Nous étions Junior Mambou et Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouverons la fois prochaine, toujours sur le même thème, l'évangélisation. Que Jésus vous bénisse, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
Amen. À la fois prochaine.
Au revoir.
Au revoir.